Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui, en principe au moins, terminer le traité sur la justice. Il reste quelques questions à couvrir. Il n'y a pas grand-chose sur le polycopier. Vous avez le polycopier, colline sur le polycopier à la page 99, en bas de la page. Il reste donc les questions 77, 78, 79 et 80. Donc nous avons terminé la dernière fois les considérations importantes sur les péchés contre la justice, qui sont aussi des péchés contre la charité, surtout les détractions, les calomnies, les médisances, toutes ces choses-là qui sont malheureusement extrêmement fréquentes parmi les catholiques de tradition. Je vous l'ai déjà dit souvent, ce n'est pas une blague, c'est malheureusement exact, que le péché traditionnel des traditionnalistes, c'est malheureusement le péché de médisance, le péché de calomnie. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous avons reçu la grâce du bon Dieu de conserver la foi, la foi, que nous avons le droit pour autant de mépriser le prochain, de dire n'importe quoi et n'importe quand sur le prochain, etc. Rappelez-vous cette phrase de Saint Bernard que j'ai citée plusieurs fois. Il n'est pas facile de décider quel est le plus coupable, du diffamateur ou de celui qui l'écoute. Une petite note aussi que je crois avoir oublié de préciser. Voilà ce que dit Saint Thomas sur ces péchés-là. L'amitié est préférable aux honneurs. Il vaut mieux être aimé qu'honoré. Donc, les péchés qui vont directement contre l'amitié sont encore plus graves que les péchés qui vont contre l'honneur. Les péchés qui vont contre l'amitié, Saint Thomas d'Aquin appelait ça les rapporteurs, hein, les péchés de susurration, les péchés, si vous voulez, par lesquels on essaye de mettre la bisbille, de mettre la discorde entre les gens qui se connaissent et qui s'apprécient. Qu'on ne vienne pas me dire aussi ce que j'entends tout très souvent. Oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, maintenant tout le monde le fait, c'est des choses impossibles. On ne peut plus être en société sans dire du mal des gens. C'est faux, parce qu'en société, on peut au moins se taire. En se taisant, on évite déjà bien les problèmes. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais avec la grâce du bon Dieu, tout est possible. Prenons donc la question 77 de la fraude dans les achats et les ventes. Et là encore, il y a bien des choses à dire. Au niveau de l'éducation des enfants, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais j'y reviens puisque c'est le sujet du cours, la question de Saint Thomas. Faites attention, surtout dans l'éducation de vos enfants, ne laissez pas vos enfants s'habituer aux petits vols qui, répétés tous les jours, finissent par faire de grosses sommes. Quand on entend un gamin catholique de tradition de 15 ans qui se permet de nous dire « Monsieur l'abbé, c'est vrai que je ne paye pas le métro quand je prends le métro, que je ne paye pas mon transport par train, mais je me cache quand le contrôleur arrive. Mais vous comprenez, monsieur l'abbé, c'est une compensation occulte. » C'est des choses qu'on entend. J'ai le droit de me poser des questions. Manifestement, il y a des parents, des adultes, sans doute ses parents, qui ont parlé devant lui de choses qu'ils auraient dû garder pour eux. Il y a certains cas où la compensation occulte est autorisée, mais dans ce cas-là, certainement pas. puisque l'individu en question, le jeune de 15 ans, le gamin de 15 ans, il n'a pas été. L'État ne l'a pas volé directement, donc il n'a pas le droit de faire une compensation occulte par lui-même. En voyant un petit peu ce que dit saint Thomas de cette question de la fraude dans les achats et les ventes, là encore une fois, je reconnais qu'il faut pas mal d'héroïsme hein, pour lutter contre ces choses-là dans le monde moderne, parce que c'est des choses qui sont très fréquentes. Première question, premier article plutôt, la question 77. Peut-on vendre une chose plus qu'elle ne vaut? Donc voilà ce que dit saint Thomas. Je vais assez vite parce que c'est des questions de justice, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Surtout que j'en ai déjà pas mal parlé. Les contrats, dit saint Thomas, ont nécessairement pour base l'égalité entre le prix et la valeur des choses. Donc, en principe, la vente doit correspondre à la valeur de la chose. Bon. Il résulte de là, dit saint Thomas, que si le prix excède la valeur des choses, ou la valeur des choses le prix, l'égalité requise par la justice étant détruite, la transaction est injuste. Donc, à considérer les ventes et les achats dans leur nature même, il est illicite de vendre une chose au-dessus de sa valeur ou de l'acheter au-dessous de sa valeur. Bon, il est évident qu'il faut du bon sens aussi. Dans le commerce, il n'est pas possible de faire de l'argent pour nourrir sa famille si on ne fait pas un petit bénéfice sur ce que l'on vend. Mais là, encore une fois, le bénéfice doit être raisonnable. Si ce bénéfice est tout à fait déraisonnable, il peut y avoir vol et injustice. Deuxième article. Une vente est-elle illicite à cause des défauts de la chose vendue? Bon, trois sortes de défauts, dit saint Thomas, sont susceptibles d'être trouvés dans les choses que l'on vend. Premier défaut, affecte l'espèce elle-même. Bon, le vendeur qui le connaît comme une fraude, et la vente est illicite. Un vice caché, par exemple. Un vice caché important par le vendeur, qui sait très bien que la pièce qu'il vend, l'objet qu'il vend, la chose qu'il vend, est une chose qui ne fonctionne pas correctement, qui a un vice caché, et qui cache ce vice à l'acheteur, ou qui ne diminue pas sérieusement le prix de vente à cause du vice caché, commet un péché contre la justice. Et comme tous les péchés contre la justice, il est tenu à restitution. Deuxième défaut, dit saint Thomas, défaut dans la quantité ou la mesure. Si en vendant je me sers sciemment d'une mesure défectueuse, je commets une faute, ma vente est illicite. Et il cite le Deutéronome, vous n'aurez pas en secret deux poids, l'un plus fort, l'autre plus faible, une mesure plus grande et une plus petite, car le Seigneur abhorre toute injustice. Enfin, troisième défaut dans les achats et les ventes, dans la qualité. Si vous donnez seulement sciemment pour saint un animal malade, il y a fraude. Et encore ici, la vente est illicite. Dans ces trois cas, donc soit le cas qui affecte l'espèce, soit le cas qui affecte la quantité ou la mesure, soit le fait qui affecte la qualité, il y a péché par injustice. Et que donc, dans ces cas-là, nous sommes tenus à restitution. Alors, si le vendeur ignore ce défaut, il est de bonne foi, il est exempt de péché, sans être dispensé de réparer son injustice matérielle. L'acheteur, pareillement, dit saint Thomas, qui recevrait avec connaissance un objet à la place d'un autre moins précieux, par exemple de l'or vrai pour de l'or faux, commettrait une injustice et serait tenu à restitution. Vous voyez, donc, les deux côtés, on est tenu à restitution, et du côté du vendeur et du côté de l'acheteur, s'il y a une vente ou un achat illicite. Bon. Cependant, il y a une note ici de Mgr Gousset, qui est loin d'être un libéral, dans sa théologie morale, voilà ce qu'il dit, une note que je trouve dans le livre de l'abbé Le Breton, le commentaire sur la somme théologique. Tout ce qu'enseigne ici saint Thomas, dit Mgr Gousset, est d'une rigoureuse exactitude. Mais il est un point qui ne semble pas avoir traité, c'est celui de la convenance naturelle qui résulte de la situation locale. Il est généralement reçu, du moins parmi nous, dit Mgr Gousset, que la convenance particulière d'une chose, d'un domaine pour tel acheteur, en fait hausser le prix. Ce qui fait dire, cette chose, cette propriété vaut tant pour un tel, mais elle vaut moins pour un autre. Aussi, nous pensons que l'on ne doit nullement inquiéter celui qui vend une chose au-dessus de son prix commun à raison de cette convenance. L'acheteur lui-même s'attend à payer cette convenance et il ne s'en plaint pas. Le prix des choses dépend principalement de la commune estimation des hommes. Il ne faut pas confondre la convenance d'une chose avec la nécessité de l'acheteur dont le vendeur ne peut se prévaloir pour vendre une chose plus qu'elle ne vaut sans commettre une injustice. Et donc il faut en fin de compte aller au cas par cas. Hein, mais il est certain qu'un vendeur a le droit légitimement devant Dieu de faire un bénéfice avec la chose qu'il vend, si c'est son moyen de vie. Bon. Donc l'acheteur est aussi tenu en conscience de respecter le fait que celui qui lui vend la chose qu'il cherche à acquérir a le droit de faire un bénéfice sur sa vente. Alors, c'est évident que ce bénéfice doit être raisonnable. Troisième article, qui est une reprise en fait du deuxième. Le vendeur est-il tenu de déclarer le vice de la chose qu'il vend ? Alors voilà ce que dit, je résume ce que dit saint Thomas. Vendez-vous un objet dont le vice causera à l'acheteur un dommage ou un danger. Un dommage parce que ce vice en diminue naturellement la valeur et un danger lorsqu'il en rend l'usage difficile ou périlleux. Vous lui occasionnez une perte. C'est pourquoi, si ce vice est caché et que vous ne déclariez pas, votre vente est frauduleuse et vous êtes tenu de réparer le dommage. Mais, du moment que le vice est apparent, comme dans le cas d'un cheval borgne par exemple, ou que la chose vendue, quoique non convenable pour l'acheteur, peut servir à d'autres, vous n'êtes pas tenu à le déclarer, pourvu que vous abaissiez suffisamment le prix. Bon, je donne un exemple. Supposez que vous vendez une voiture qui a 20 000 km, qui a 200 000 km, pardon. Vous vendez une voiture qui a 200 000 km, bon, c'est évident que l'acheteur qui va acheter une voiture qui a 200 000 km ne s'attend pas à trouver à 200 000 km une voiture en parfait état, c'est impossible. Le moteur aura donc des traces d'usure, la carrosserie aura des traces d'usure à cause du fait que cette voiture a déjà roulé beaucoup, beaucoup de kilomètres. 200 000 km, c'est beaucoup pour une voiture. Alors, un vendeur aurait le droit de dire... voilà, je vous vends cette voiture 200 000 km, comme elle a beaucoup, beaucoup de kilomètres, je vous la vends à un bon prix à cause du kilométrage. Je vous la vends telle qu'elle est. Je ne prétends pas que tout est parfait dans la voiture, que vous n'aurez aucun problème. Dans ce cas-là, la vente est légitime. Et par contre, s'il sait qu'il y a un gros vice caché, par exemple, il sait que la courroie de distribution va lâcher dans 50 km parce qu'elle est complètement morte, il le sait. C'est donc dangereux même de vendre la voiture comme ça, il peut avoir un accident à cause de ça, là il y a fraude. C'est ce que dit saint Thomas. Alors, cependant, si l'on considère que le négoce ainsi compris n'est qu'un aliment pour la cupidité, laquelle est infinie dans ses convoitises, on conviendra qu'il y a en soi quelque chose de vil. Le négoce, par conséquence, peut aussi être apporté à un but légitime, tels que le bien public, le soutien d'une famille, le soulagement des pauvres, et dans ces conditions, il n'y a rien de blâmable. L'Église n'a jamais condamné le négoce en tant que tel, le commerce en tant que tel. Ce sont les abus du commerce qui est en soi condamnable. Bon. Il y a des choses évidentes qu'il faut connaître. L'Église a toujours condamné, par exemple, le communisme à cause de son anti-catholicisme viscéral, le fait que le communisme est un naturalisme qui refuse, un matérialisme qui refuse catégoriquement de considérer l'âme humaine en tant que telle. Mais il ne faut pas oublier que l'Église a aussi condamné le capitalisme en tant que tel. À partir du moment où ce capitalisme écrase les petits, écrase les pauvres, et n'est fondé que sur la valeur du capital, en considérant l'homme comme une simple machine. Eh bien, il est évident que l'Église a condamné les deux choses. Attention, elle n'a pas simplement condamné le communisme, elle a également condamné le capitalisme. Bien sûr, encore une fois, il y a un capitalisme qui est acceptable, un capitalisme qui n'est pas acceptable. Tout dépend, encore une fois, de la personne qui va faire le négoce et la façon dont il le fait. Il y a des tas de distinctions qu'il faudra faire au cas par cas. Comme, quoique le commerce puisse être apporté à une fin légitime et honnête, le clergé, les notes du Père Le Breton, le clergé doit s'en abstenir. Soit parce qu'il a pour objet un gain temporel, soit à cause des péchés qu'il occasionne et des sollicitudes où il peut plonger l'esprit. Il est certain qu'il est difficile de faire du commerce à grande échelle tout en conservant l'état de grâce. C'est possible, mais c'est difficile. Et plus les sommes manipulées sont très importantes, plus il est difficile de rester en état de grâce en les manipulant. De la même façon, si vous voulez, il n'est pas impossible, strictement parlant, pour un millionnaire de sauver son âme, mais il est évident qu'un millionnaire aura beaucoup plus de difficultés à sauver son âme que quelqu'un qui a beaucoup moins d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent amène derrière elle toute une série de casseroles et qui sont difficilement évitables. Quelqu'un qui a trop d'argent, qui a beaucoup d'argent, risque d'avoir d'énormes tentations à cause de cet argent qu'il a. Ceci dit, l'Église n'a jamais, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'a jamais condamné en tant que tel le riche. Il avait même parmi ses amis, c'est la tradition qui le dit, par exemple, il avait comme ami Lazare, Sainte-Marthe, Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Sainte-Marie-Madeleine, qui étaient des gens qui avaient une certaine aisance financière, disons ça comme ça. Donc la richesse en tant que telle n'est pas condamnée. Ce qui est condamné, c'est le mauvais usage de la richesse. Et l'Église a toujours dit que les riches, ceux qui ont reçu de Dieu une certaine richesse, un certain nombre de biens matériels, ont reçu de Dieu ces richesses pour en faire profiter les pauvres. Ces richesses ne vous appartiennent pas et doivent être utilisées, au moins pour le surplus, doit être utilisées pour aider les pauvres. C'est évident qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de mettre en pratique ces lois d'Église, ces lois pleines de sollicitude et pleines de charité de l'Église à cause du système politique qui est en place. Alors on avance. Question importante, la question 78, du péché de l'usure dans les prêts. Alors là, on rentre dans un chapitre extrêmement compliqué pour ses conséquences pratiques d'aujourd'hui. Donc, l'Église a toujours, avec raison, été contre l'usure. Bon. Et saint Thomas d'Aquin va expliquer pourquoi. Le problème, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Donc on va voir avec saint Thomas dans quel cas on a le droit d'obtenir un bénéfice en quelque sorte pour de l'argent qu'on prête à quelqu'un d'autre. Bon. Du péché de l'usure dans les prêts, c'est donc le titre de la question numéro 78. Article 1, est-ce un péché de prêter à usure ? Bon. Saint Thomas commence par citer le livre de l'Exode, donc dans le Pentateuque de Moïse. Si vous prêtez de l'argent aux pauvres de mon peuple qui habitent la même terre que vous, vous ne les opprimerez pas comme un exacteur et vous ne les accablerez pas par des usures. Donc le fait, c'est une première chose importante à comprendre, le fait de profiter de la pauvreté de la personne, le fait de profiter d'un malheur public, par exemple d'une épidémie, d'une guerre, pour vendre des choses de première nécessité à un prix exorbitant, c'est purement et simplement de l'usure, et ça, c'est fortement condamné par l'Église. C'est un péché contre la justice qui exige une réparation. En accordant l'usage à quelqu'un, une chose qu'on lui prête ou qu'on lui vend, qu'on lui prête plutôt, c'est si le gars qui est traité, c'est lui en concéder la propriété. On ne doit pas traiter séparément de l'usage et de ces choses elles-mêmes. Et saint Thomas va donner un exemple. Si l'on voulait, par exemple, vendre du vin, d'une part, et de l'autre, l'usage de ce vin, on vendrait la même chose deux fois. Ou plutôt, on vendrait ce qui n'est pas, et de là, une injustice. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent aujourd'hui. Bon, je ne veux pas me lancer dans un traité sur les finances publiques, les finances privées, parce que d'abord, je n'ai pas les capacités pour, je n'ai pas les connaissances pour faire ce genre de choses. Et ensuite, ça m'amènerait beaucoup trop loin. Mais il est important de considérer qu'il y a dans tout le système bancaire tel qu'il existe actuellement dans le monde entier, dans le grand capitalisme, quelque chose de profondément injuste, profondément injuste. Il y a des injustices qui sont criantes. Encore une fois, je ne veux pas me lancer dans un domaine qui n'est pas exactement le mien. J'essaie de donner les principes généraux comme un prêtre. Mais donne un exemple tout simple. Quand vous faites un emprunt, par exemple, imaginez que vous empruntez 200 000 euros pour acheter une maison. Bon. Et que vous commencez à rembourser votre emprunt à la banque en payant tous les mois une somme déterminée. Le fait qui est très fréquent aujourd'hui, qui même je crois pratiquement fait systématiquement, le fait que la banque va enlever la somme qui est versée par vous pour votre remboursement chaque mois, va ôter ça simplement des intérêts et sans toucher au principal, est quelque chose de profondément injuste. Parce que vous pouvez comme ça payer pendant des années, des années, des années simplement les intérêts, le principal, lui, ne bouge pas. Alors qu'en stricte justice, quand vous payez un remboursement pour l'emprunt que vous avez fait pour acheter votre maison de 200 000 euros, vous devriez pouvoir diminuer non seulement les intérêts, mais en même temps diminuer aussi le principal, ce qui n'est pas le cas. Là encore, on voit bien que l'esprit de lucre, si vous voulez, l'esprit de richesse, Mammon, comme dit l'Évangile, l'esprit de Mammon possède complètement notre monde. On voit bien avec l'introduction dans l'histoire de la révolution industrielle, puisque ces choses-là n'existaient pas au Moyen-Âge. Il y avait certes des usuriers, la plupart du temps c'était des hommes d'origine juive, des usuriers juifs qui vendaient à usure, qui prêtaient à usure, plus exactement, mais l'Église avait toujours condamné ça, et la politique, les politiciens de l'époque condamnaient ça fortement. Mais actuellement, malheureusement, depuis la révolution industrielle, l'homme n'est considéré pas la révolution industrielle que comme une machine, donc quelque chose qui est monnayable. Plus de ça, cette augmentation de l'argent disponible, si vous voulez, la possibilité pour certaines personnes de faire de l'argent rapidement dans des conditions de moralité plus que douteuses, rend les choses extrêmement compliquées. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de dire que les riches sont des mauvaises personnes, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut faire attention qu'il est plus difficile, c'est la phrase de notre Seigneur, il est plus difficile pour un riche d'aller au ciel que pour un chameau de passer par le chat, par le trou d'une aiguille. Et, il faut se rappeler ça. Donc, voyons un petit peu donc ce qu'explique saint Thomas d'Aquin. Il y a des choses, dit-il, donc il y a une première distinction, il y a des choses dont l'usage emporte la consommation, ainsi le pain, le vin, les autres semblables. On a déjà vu ça. Deuxièmement, il y a des choses au contraire dont l'usage n'emporte pas la destruction. L'usage d'une maison consiste à l'habiter et non à la détruire. Quand vous achetez un litre de vin, une fois que votre vin est bu, la chose n'existe plus. Par contre, si vous empruntez une maison, vous louez une maison, au bout d'un mois de location, vous avez déjà payé une location, la maison, elle existe toujours. Voilà ce que dit saint Thomas. Pour ces choses-là, l'usage d'une maison consiste donc à l'habiter, non à la détruire. Pour ces choses-là, on peut traiter séparément l'usage et les choses elles-mêmes. Je puis vendre une maison et m'en réserver l'usage, ou réciproquement, en céder l'usage et m'en réserver la propriété, comme cela se pratique dans les baux et les locations. L'argent, dit saint Thomas, qui est spécialement destiné à faciliter les échanges, rentre dans la classe des choses dont l'usage emporte la consommation. Car en le faisant servir aux ventes et aux achats, on le dépense. De là vient qu'il est généralement illicite de recevoir quelque chose pour l'usage de l'argent prêté, car c'est de l'usure proprement dit. Donc, définition de l'usure pour saint Thomas d'Aquin, recevoir quelque chose pour l'usage de l'argent prêté. Pourquoi? Parce que dans la pratique, ça consiste à faire payer deux fois le prix d'une même chose. Alors, petite note, qui est aussi de Monseigneur Gousset. Si on exige l'intérêt précisément en vertu d'un prêt,
c'est-à-dire sans un titre qui soit distinct et séparable du prêt, cet intérêt devient illicite, injuste et usuraire. Donc on peut définir l'usure proprement dite ainsi, tout intérêt, tout profit, en sus du capital ou sort du capital, exigé de l'emprunteur précisément en vertu ou à raison du simple prêt. Les pères, les conciles, les souverains pontifes et les théologiens s'appuyant sur les livres saints s'accordent à nous donner la même notion de l'usure en la condamnant expressément comme contraire au droit naturel et au droit divin. Donc, encore une fois, cela consiste, en plus du capital prêté, d'exiger quelque chose de plus en vertu et à raison du simple prêt. Ce sont des choses qui se font couramment dans le système bancaire actuel. Alors attention, il y a une objection importante. La voici. Donc ça, ce n'est pas le texte de saint Thomas, c'est dans les commentaires que je suis. Si j'éprouve une perte à l'occasion de l'argent que je prête, ne m'est-il pas permis, pour m'indemniser, de réclamer quelque chose au-delà de mon prêt ? Réponse, sans aucun doute. Celui qui prête pour stipuler avec l'emprunteur une indemnité pour le dommage qui lui est causé par la privation d'une chose qu'il a droit de posséder, ce n'est pas vendre l'argent, l'usage de l'argent, c'est simplement éviter une perte. Donc ça, c'est la phrase importante. Donc on a le droit de demander un intérêt sur de l'argent prêté pour éviter une perte. Par exemple, pour corriger l'inflation prévue. Bon, vous prêtez 100 000 euros à quelqu'un actuellement. Vous prêtez 100 000 euros à quelqu'un en lui demandant de vous le rendre dans un an. Mais dans un an, ces 100 000 euros ne vaudront plus 100 000 euros. Dans un an, ces 25 000 euros ne vaudront peut-être plus que 75 000 ou 80 000 euros. Donc, si vous prêtez à quelqu'un 100 000 euros en lui disant « Voilà, dans un an, vous me rendez cette somme » et que cette personne rend au bout d'un an simplement 100 000 euros, en fait, le prêteur a perdu 20 000 euros. Puisqu'il prête 100 000 euros, qui valent 100 000 euros, mais un an après, quand il récupère l'argent prêté, l'argent rendu plutôt ne va correspondre qu'à une somme d'à peu près 80 000 euros. Donc il a perdu dans l'histoire 20 000 euros. Et donc c'est le bon sens élémentaire qui dit que pour corriger l'inflation, les pertes anticipées, on a le droit de demander à ce moment-là un intérêt pour éviter une perte. D'accord ? Donc c'est la note ici du père Le Breton. Tous les théologiens conviennent qu'il est des titres en vertu desquels on peut tirer quelque intérêt du prêt. Entre autres, à cause du danger extraordinaire de perdre le capital. Troisième question. Est-on tenu de restituer tout ce qu'on a gagné par l'usure ? Voilà la réponse. Voilà la réponse de saint Thomas d'Aquin. Nous l'avons dit, les choses dont l'usage n'est autre que leur consommation ne donnent pas d'usufruit. Si on les a extorquées par l'usure, par exemple si on s'est approprié ainsi de l'argent, du froment, du vin ou autre chose du même genre, le profit que l'on a retiré doit être regardé comme le fruit, non de ces objets, mais l'industrie humaine. Dès lors, on n'est pas tenu, attention, on n'est pas tenu de restituer au-delà de ce qu'on en a reçu, à moins toutefois que la détention qu'on en a faite n'ait porté quelque préjudice au prochain, car on serait obligé de réparer le dommage causé. Il est ensuite des choses qui, ne se consommant pas par l'usage, donnent lieu à l'usufruit, ainsi une maison, un champ ou les autres semblables. Celles-là, lorsqu'on les a extorquées par usure, doivent être restituées avec tous les fruits qu'on en a recueillis. Et donc il fait une distinction. Lorsqu'on vole quelqu'un, eh bien il faut restituer avec les conséquences du vol. Là, encore une fois, il y a des distinctions à faire et ces distinctions ne sont pas toujours très faciles à faire. Donc c'est ce que dit ici saint Thomas. Si l'argent que j'ai volé à donner des bénéfices à cause de mon industrie propre, dans ce cas-là, je suis tenu de rendre l'argent que j'ai volé et pas les conséquences de mon industrie propre. C'est ce que dit saint Thomas. Bon, j'avoue que c'est des distinctions qui ne sont pas très faciles. Ça m'a vite fait de louvoyer avec ça. C'est pour ça que je marche un peu sur des œufs dans ce chapitre-là, parce que je connais, je n'ai pas de science financière particulière. Hein. Alors, il y a encore d'autres notes ici que je suis de Mgr Gousset. Je sais que Mgr Gousset, dans sa théologie morale, une théologie en trois tomes, je crois, que je dois avoir quelque part, mais que je n'ai jamais lu. Je sais que Mgr Gousset est un bon auteur. C'est un auteur, je pense, du 19e. Voilà ce qu'il dit. De graves docteurs pensent que la loi civile qui permet l'intérêt du prêt est aussi un titre légitime à raison du haut domaine que les souverains ont sur les biens des particuliers et dont ils paraissent user en approuvant un certain taux. Depuis que l'industrie et le commerce ont pris de l'accroissement, ce sentiment s'est propagé. Plusieurs réponses émanées du Saint-Siège paraissent le favoriser. Il a ainsi été décidé, premièrement, que l'on ne doit pas inquiéter au tribunal de la pénitence le prêtre qui enseigne que la loi civile, sans être accompagnée d'aucun autre titre intrinsèque au prêt, suffit pour légitimer le prêt à intérêt. Deuxièmement, qu'un confesseur agirait trop durement et trop sévèrement en refusant l'absolution aux fidèles qui croient pouvoir tirer l'intérêt du prêt sans avoir d'autre titre que la loi civile. Troisièmement, qu'on peut absoudre sacramentellement, sans imposer aucune restitution, les pénitents qui, étant de mauvaise foi, ont perçu des intérêts du prêt au terme de la loi s'ils sont repentants d'avoir agi ainsi contre leur conscience. Ils se montrent d'ailleurs disposés à s'en reporter à ce qui pourrait être décidé par le Saint-Siège. Et on sent même très clairement dans les textes cités qu'il y a une certaine hésitation des hommes d'église, tout simplement à cause des multitudes de circonstances qui peuvent changer complètement. Et si les circonstances s'en changent, l'espèce du péché va également changer. Et encore une fois, il est évident que vous avez une réserve, par exemple, financière de 100 000 euros. Bon. Votre voisin, votre ami, quelqu'un, un membre de la famille, vous supplie de lui prêter cet argent. Je suis en train de m'acheter une maison, je n'arrive pas à avoir un prêt bancaire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mais puis je sais que vous avez 100 000 euros d'économie. Est-ce que vous acceptez de me prêter ces économies? Je vous les rends sûr de sûr dans un an. Et on donne les preuves que ça va être possible. Bon, il est évident que dans un cas comme ça, vous allez vous délaisser d'une certaine somme importante d'argent qui est pour vous comme une soupape de sécurité, c'est pour les coups durs. Bon, donc vous allez avoir un dommage qui est réel à cause de ce fait que vous prêtez pendant un certain temps ces économies, vous n'avez plus rien. Donc, il vous arrive un coup dur pendant cette année, tout sera sur vos épaules. Donc, il est évident dans un cas comme ça que vous auriez le droit de demander un certain intérêt à cause du dommage. C'est ce que dit saint Thomas, à cause du dommage et surtout à cause du danger extraordinaire de perdre le capital. Parce qu'actuellement, les fortunes se font très vite, mais aussi se défont très vite. Quatrième article, est-il permis d'emprunter de l'argent à usure? Alors ça, c'est une question délicate. En gros, ça veut dire, est-ce que j'ai le droit d'en faire un emprunt bancaire à une banque? Donc saint Thomas répond avec une citation importante de saint Augustin. Bon, voilà ce qu'il dit au début. Lorsque Publicola demandait si l'on pouvait avoir recours au serment d'un homme qui jure par les faux dieux, saint Augustin répondit, je cite, « Se servir non pour le mal, mais pour le bien de la foi d'un homme qui jure par les faux dieux, ce n'est pas participer au péché par lequel il honore les démons, c'est seulement profiter du pacte fidèle par lequel il garde sa foi. » Mais l'engager à jurer par les faux dieux serait un péché. Cela est donc totalement applicable à notre sujet, dit saint Thomas. Il n'est permis en aucune façon d'induire quelqu'un à faire des prêts usuraires, mais si l'on trouve un homme qui soit tout disposé, par exemple un usurier de profession, on peut lui emprunter de l'argent à usure pour subvenir à ses propres besoins ou à ceux d'autrui. Ce n'est pas consentir à son péché, c'est seulement lui fournir l'occasion d'un prêt qui de soi est un bien. La vraie cause du péché de l'usure, il la trouve dans la perversité de son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Imaginez que vous ayez un gros coup dur qui arrive à votre famille, une grosse maladie, un cancer, un arrêt de travail, une perte de travail, etc. Est-ce que j'aurais le droit dans ce cas-là, est-ce que c'est la seule solution? J'ai absolument besoin de trouver 1000 euros avant la fin du mois, sinon je perds ma maison ou je perds ma voiture. Et est-ce que j'aurais le droit de faire un emprunt à un banquier qui va me faire un taux pratiquement usuraire, en profitant du fait que je suis dans une situation d'urgence? Bon. En fait, qu'est-ce que dit saint Thomas? Ce que veut dire saint Thomas, c'est que vous avez le droit de faire cet emprunt parce que vous êtes en situation d'urgence, vous êtes dos au mur, mais il est évident que le banquier qui profite de votre situation pour vous prêter cet argent à un taux usuraire, c'est lui qui commet un péché. Donc, en résumé, la seule chose qui peut justifier un prêt d'argent avec un taux d'intérêt, c'est l'inflation. Encore une fois, aujourd'hui, je pense que les catholiques devraient essayer, dans toute la mesure du possible, de se sortir du système financier quand ce n'est pas absolument nécessaire. Je ne dis pas que c'est possible de se quitter, de couper complètement avec tous ces systèmes financiers actuels. Moi-même, j'ai un compte en banque pour la maison, pour payer les factures de la maison. Bon, je suis bien obligé, je n'ai pas le choix. Il est évident que si vous avez un choix, vous avez le droit d'utiliser votre conscience pour essayer d'éviter les situations dangereuses et les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Et Dieu sait si ça, dans ce domaine, elles sont nombreuses. Donc, la seule chose que je peux conseiller, je vais donner simplement deux conseils. C'est peut-être le premier conseil, c'est d'éviter sans doute de se lancer dans des tractations financières hasardeuses. Beaucoup de gens pensent que simplement avec Internet, on peut arriver par le système des bourses, en boursicotant à droite et à gauche, arriver à faire un peu d'argent. Je dirais, vous jouez vraiment avec le feu. Je conseillerais à quelqu'un de vraiment d'éviter absolument de faire ces choses-là parce que c'est beaucoup trop dangereux. Le deuxième conseil que je vais donner est le suivant, beaucoup plus simple. Évitez par tous les moyens de vous imposer des crédits. N'achetez pas des choses avec un argent que vous n'avez pas. Attendez d'avoir l'argent pour acheter les choses pour éviter les crédits. Les cartes de crédit dans ce domaine sont extrêmement dangereuses. Ne faites pas des gros emprunts bancaires avec des taux d'intérêt assez importants quand ce n'est pas absolument nécessaire. Je dirais, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. C'est parfois une question de vie ou de mort, je veux bien. Mais quand ce n'est pas une question de vie ou de mort, évitez absolument de vous mettre dans le crédit jusqu'au cou. J'ai connu des tas de familles qui ont eu des gros problèmes dans le ménage, entre monsieur et madame, tout simplement parce que au 10 du mois, il n'y avait déjà plus d'argent. Tout l'argent du salaire du mois précédent avait été dépensé. On mangeait des nouilles jusqu'à la fin du mois parce qu'il n'y avait plus d'argent. Tout simplement parce qu'on avait absolument voulu avoir une voiture toute neuve, dernier cri. On avait voulu avoir la chaîne stéréo avec le cinéma à la maison, avec un écran plasma de 2 mètres de diagonale. Parce qu'on a voulu avoir des tas de choses de ce genre qui ne sont pas du tout des choses nécessaires, des choses indispensables. Et du coup, il y avait des impôts. Des frais terribles à payer, des remboursements bancaires à effectuer, des intérêts énormes à rendre. Et ça crée des tensions dans les familles épouvantables qui amenaient au divorce. Vous voyez? Donc faites attention, si ce n'est pas absolument nécessaire, il ne faut pas le faire. Dans certains pays, je me rappelle aux États-Unis, quand j'étais là-bas, j'ai vécu très longtemps là-bas comme prêtre, c'était malheureusement la coutume qui était dans les mœurs. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à enlever ça de la mentalité américaine. Des jeunes qui se mariaient, qui avaient 25 ans, donc évidemment, quand on se marie à 25 ans, bon, on roule pas sur l'or en général. Eh bien, ils croyaient qu'il était absolument indispensable pour eux, le mari surtout, pensait qu'il était absolument nécessaire, c'est une question presque d'honneur pour lui, d'offrir à sa femme une maison magnifique dès le début du mariage, alors qu'ils n'avaient pas l'argent. Donc on voyait des jeunes mariés qui avaient 25 ans, qui faisaient des emprunts mais énormes à une banque pour pouvoir s'acheter une maison neuve dès le début. Et je leur ai expliqué en leur disant, mais dites donc, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous allez retrouver des problèmes énormes parce que vous allez avoir des énormes intérêts à payer et vous allez vous retrouver dans une situation de stress constant. Ça va provoquer des tas d'histoires dans la famille. Est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement louer un petit appartement au début, mettre de l'argent de côté, et puis quand vous avez déjà suffisamment d'argent de côté, à ce moment-là, vous pouvez sans doute envisager l'achat d'une maison plus importante. Mais commencez par un appartement. Et dans bien des cas, les jeunes refusent net. Ah, il n'en est pas question, c'est une question d'honneur. Je ne peux pas mettre ma femme dans un petit appartement, un petit boui-boui infâme. Elle va souffrir. Ah, mais attendez, on peut choisir un appartement à peu près correct, qui ne soit pas trop cher, et faire des économies. Et ça, ils n'arrivaient pas à faire pénétrer ça dans les esprits de la plupart de mes jeunes dont je m'occupais quand j'étais aux États-Unis, parce qu'ils s'étaient mis dans la tête qu'il fallait dès le départ une grosse maison, une belle maison, qui coûtait des fortunes, rien, moins de parfois 250 000, 300 000 euros, ou l'équivalent, 300 000 dollars. Ils se lançaient dans des emprunts énormes dès le départ, et avec des conséquences de stress à cause des situations économiques énormes. Donc le monsieur, littéralement, a explosé très rapidement parce qu'il n'y avait plus d'argent même pour nourrir la famille en fin de mois. Et là, qu'on ait des besoins de certaines choses matérielles, je suis tout à fait d'accord, c'est un peu inévitable. Mais encore une fois, dans la façon de gérer ces emprunts, il faut utiliser la raison et la foi, les deux choses en même temps. J'ai connu des prêtres quand j'étais dans la fraternité aux États-Unis, entre autres. J'ai connu des prêtres qui étaient obligés en fin de mois d'organiser des soupes, une espèce de soupe populaire pour certains des paroissiens qui n'avaient plus rien à manger, littéralement. Les enfants, littéralement, mouraient de faim à partir du 20, du 20e, 20e, 22e jour du mois parce que tout avait été dépensé dans les emprunts. Donc attention à ça. Alors rapidement, les deux dernières petites questions de ce grand traité de la justice. Donc, saint Thomas va parler des parties intégrantes de la justice qui consistent à faire le bien et à éviter le mal. Puis la question 80, des parties potentielles de la justice ou des vertus qui lui sont unies. Alors, je vais rapidement couvrir ces deux questions, question 79 et 17. Question 80, donc ils vont clôturer le grand traité sur la justice. Ensuite, à partir de la question 81 jusqu'à la question 100, je ne dis pas de bêtises, 81 à 122, c'est le traité de la vertu de religion que l'on couvrira, si Dieu veut, à partir du prochain cours. Ça prendra pas mal de temps. Premier article de la question 79, Éviter le mal et faire le bien sont-elles des parties de la justice? Parce que ces deux choses sont des parties de la justice. Donc, toute vertu, dit saint Thomas, fait le bien et évite le mal. C'est le propre de la justice, en tant que vertu spéciale, de faire le bien, qui est une dette envers le prochain, et d'éviter le mal opposé. Il lui appartient aussi, comme vertu générale, de faire le bien qui est une dette envers la société ou envers Dieu, et d'éviter le mal contraire. Or, ce sont là deux parties quasi intégrantes de la justice dont l'emploi est d'établir l'égalité dans les choses qui regardent le prochain. Cette vertu, en effet, doit d'abord constituer l'égalité en rendant aux autres ce qui leur est dû, c'est-à-dire faire le bien et maintenir cette égalité une fois établie, en ne leur causant aucun tort, ce qui consiste à éviter le mal. Donc la justice nous demande d'éviter le mal et de faire le bien à la fois. Les deux choses sont d'ailleurs totalement liées. Alors, est-ce qu'une transgression de la justice est-elle un péché spécial? Voilà ce que répond saint Thomas. Quoique par un péché mortel quelconque, on transgresse un précepte divin, la transgression qui, entendue dans le sens formel, consiste proprement à violer un précepte négatif, peut devenir un péché spécial sous un double rapport. D'abord, comme constituant un mépris du précepte lui-même, ce qui est une infraction de la justice légale, puis, deuxièmement, en se distinguant de l'omission, laquelle est opposée à un précepte affirmatif. Donc, la transgression est un péché spécial. Article 3. L'omission est-elle un péché spécial? Donc Saint-Ignace dit bien que l'omission d'un bien est aussi un péché spécial. Tout bien qui se présente comme une dette est proprement du domaine de la justice. Puisque, comme nous l'avons déjà dit, la justice est une vertu spéciale, l'omission d'un tel bien est aussi un péché spécial. Qu'il ne faut pas d'ailleurs confondre avec les péchés contraires aux autres vertus. En outre, de même que faire le bien, œuvre à laquelle est opposée l'omission, constitue dans la justice une partie distincte de la fuite du mal à laquelle la transgression est opposée, l'omission doit encore pour cette raison être distinguée de la transgression. Donc on peut pécher, malheureusement, par omission. Et cette omission commence au moment où le temps d'agir est arrivé. Quatrième article de la question numéro 79. L'omission en matière de justice, est-elle un péché plus grave que la transgression? La réponse est négative, attention. Il est plus facile de s'abstenir du mal que d'accomplir le bien. Conséquemment, la transgression est plus coupable que l'omission. La transgression qui a rapport au bien est plus coupable que l'omission qui a rapport au mal. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est la conclusion de saint Thomas, il est plus facile de s'abstenir du mal que d'accomplir le bien. La transgression, donc, est le contraire d'un acte de vertu, au lieu que l'omission en est simplement la négation. Par exemple, ne pas donner à ses parents un témoignage de respect qui leur est dû est un péché d'omission. Leur adresser une invective, voici un péché de transgression. Il est donc visible par là que la transgression est en elle-même un péché plus grave que l'omission, bien que par l'effet des circonstances, telle omission puisse s'emporter sur telle transgression. On voit très bien, dans toutes ces histoires de traité de la justice, combien il faut faire attention à faire introduire toutes les circonstances. Et les circonstances peuvent complètement changer l'espèce du péché. On peut donner des règles générales, mais après, il faut vraiment aller au cas par cas. Et c'est une question difficile qu'on a régulièrement au confessionnal où les gens parfois nous posent des questions qui regardent la justice, les vertus de justice. Et parfois les réponses sont très simples, et c'est évident. Parfois c'est pas évident du tout. Parfois c'est pas évident du tout. Une question toute simple, par exemple, imaginez quelqu'un qui me dit: Monsieur l'abbé, je n'arrive plus à joindre les deux bouts, c'est impossible, j'ai plus d'argent pour finir le mois, j'ai 3 enfants à la maison. Est-ce que j'ai le droit de faire du travail noir pour pouvoir nourrir ces enfants? Parce que si je paye encore là-dessus des intérêts ou des charges, je ne pourrais plus nourrir mes enfants. Mes enfants vont littéralement mourir de faim. Est-ce que j'ai le droit de faire du travail de ce genre, travail noir? La réponse est oui. Parce que dans un cas comme ça, vous devez évidemment sauver, donner à manger à vos enfants. Vous voyez, ce sont des cas extrêmement, extrêmement, extrêmement délicats, mais j'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile du tout, parce qu'il y a des frais énormes qui n'existaient pas au Moyen-Âge. Alors, évidemment, saint Thomas d'Aquin parle au Moyen-Âge, il écrit là autour des années 1270 à peu près. Il faut un peu adapter ça, évidemment, au monde moderne complètement fou dans lequel nous vivons actuellement. Donc, il faut vraiment aller au cas par cas. Une autre chose qui est en train d'apparaître maintenant de plus en plus, c'est une chose qui vient du Moyen-Âge et qui est tout à fait légale et légitime, c'est l'apparition du troc. Dans bien des cas, puisque les gens ne peuvent plus faire des emprunts bancaires parce que ça leur coûte beaucoup trop cher et que ce sont souvent des emprunts complètement usuraires, personne me demande souvent: monsieur l'abbé, voilà ce que je peux, j'ai un travail à faire pour quelqu'un qui se propose de m'embaucher pour ce travail pour lequel je suis compétent, je suis capable de faire ce travail, et moi, en contrepartie, je voulais demander de faire quelque chose dans ma maison pour lequel je ne suis pas compétent du tout. Bon. Et donc, en échange, je te donne telle chose, et toi, tu me donnes telle chose qui correspond à ce que je viens de te donner. Bien, je vais travailler chez toi pour faire les peintures, parce que je suis un peintre et que j'ai connaissance pour peindre correctement ta maison, ta façade que tu veux, par exemple, remettre en place. Alors, voilà, moi, je fais ça. Et puis, en contrepartie, vous êtes plombier, moi je suis peintre, mais je n'y connais rien en plomberie. J'ai des tas de problèmes dans la maison avec la plomberie, ça fuit de tous les côtés, ma femme n'est pas contente. Alors, je vous peins votre maison, la façade de votre maison, à la couleur demandée, avec les conséquences et les circonstances demandées. Et vous, en contrepartie, vous allez me changer la plomberie de la maison parce que ça ne va plus du tout. C'est parfaitement licite et logique est légal sur le plan moral. D'ailleurs, on voit très bien que cette histoire de troc existait de façon très importante au Moyen-Âge. Il y avait au Moyen-Âge, j'ai oublié d'en parler avant, il y avait au Moyen-Âge un petit peu ce système, non pas bancaire, mais une analogie avec le système bancaire qu'on appelait le système des mondes piété. Bon, le monde piété était une institution chrétienne à l'origine. Déjà, au temps de Saint-Louis, ça existait. C'est-à-dire que quand on avait un besoin urgent d'argent, on allait au monde piété, on présentait une chose de valeur, un tableau de valeur qu'on avait dans la maison, un objet de valeur, et puis on obtenait en échange de cet objet de valeur une somme. Donc on récupérait et on laissait l'objet de valeur en échange au monde piété. Je pouvais utiliser cet argent, et puis quand 2-3 semaines plus tard, j'avais récupéré l'argent que j'avais dépensé, à ce moment-là, j'allais au monde piété récupérer la chose de valeur que j'avais laissée en rendant l'argent qui m'avait été prêté. Bon, dans un cas de ce genre, c'est tout à fait licite. Je dirais même, en allant au bout des choses, on pourrait accepter, tolérer dans un cas comme ça, un petit bénéfice pour permettre au monde piété, aux personnes qui travaillent au monde piété, de pouvoir vivre. Question 80, des parties potentielles de la justice ou des vertus qui lui sont unies. Alors en fait, c'est une question qui sert de pont entre le traité sur la vertu de justice et le traité qui suit, qui est une partie en fait de la vertu de justice. Le traité sur la vertu de religion. Je vous ai dit au début de ce cours que nous allions, Dieu aidant, la prochaine fois, commencer un nouveau traité, le traité de la vertu de religion. Bon, je fais ces séparations pour des raisons didactiques, pour vous aider à comprendre les choses. Mais il est évident que le traité de la religion fait partie du traité de la justice. La justice, c'est quoi? C'est rendre au prochain ce qui lui est dû. Bon, le traité de religion, c'est quoi? Le traité de la religion, c'est quoi? Le traité de la religion, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Donc c'est la justice par excellence. Cependant, pour des raisons de simplification, de compréhension, je sépare un peu les traités, pas tout mélanger. Donc là, avec la question 80, saint Thomas introduit déjà le traité sur la vertu de religion, qui est un traité très important, beaucoup plus facile et magnifique. C'est certainement le plus beau traité de saint Thomas. Je vous l'ai déjà dit au début, c'est de sa cour, les questions 81 à 100. C'est toute la dernière partie de la seconda secundae, et ensuite il restera encore la troisième partie de la somme. Donc la première partie de la somme, première partie de la deuxième partie de la deuxième partie, puis la troisième partie de la somme, donc sur le Christ lui-même, c'est la partie certainement la plus belle de la somme. Alors, voyons rapidement cette question 80, qui est très courte, puisqu'il n'y a qu'un seul article dans cette question. Le titre de la question, des parties potentielles de la justice ou des vertus qui lui sont dues, qui lui sont unies. Donc il va citer la religion, la piété filiale, le respect, la vérité, la reconnaissance, la vengeance, la libéralité et la fabilité. En fait, ce sont tous les sujets qui vont être abordés dans les questions 81 jusqu'à 100 de la seconda secundae. Il y a toutes les questions du traité de la religion. Voilà ce que dit saint Thomas dans cette petite conclusion, si vous voulez, qui est à la fois une conclusion du traité sur la justice et une introduction au traité sur la vertu de religion. Les vertus qui s'adjoignent à une vertu principale touchent à cette vertu par certains caractères et s'en éloignent par d'autres. Comme la justice se rapporte à autrui, toutes les vertus qui présentent cette relation s'unissent à elle, bien qu'elles s'en éloignent de deux manières, car les unes ne rendent pas dans la mesure de l'égalité ce qui est au prochain et les autres n'implique pas l'idée d'une dette rigoureuse. Les devoirs que nous rendons à Dieu sont donc des dettes de justice. Et cependant, ils ne remplissent pas de notre part les conditions de l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas égaler l'homme et Dieu. Ainsi que le marque cette parole du psaume 115, « Que rendrai-je au Dieu, au Seigneur, pour tout ce qu'il m'a donné ?» Il en faut dire autant des divers devoirs envers nos parents et envers notre patrie, ainsi que des hommages rendus à la justice. C'est dans ces principes que l'on adjoint la justice, la religion, la piété filiale et le respect. Il est évident qu'on ne peut pas rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné, c'est impossible. De la même façon, analogiquement, si vous voulez, il est très difficile, voire même impossible, de rendre à nos parents tout ce qu'on a reçu d'eux, à savoir la vie. Comment voulez-vous rendre la vie que vos parents vous ont donnée? Comment voulez-vous établir une certaine vertu de justice dans ce domaine-là? Encore une fois, il n'y a pas égalité, donc on ne peut pas avoir une justice parfaite. Les vertus donc relatives à autrui, mais qui s'éloignent de l'idée d'une dette rigoureuse, pour s'arrêter à celle d'une dette morale, se partagent en deux classes. Les unes, la vérité, la reconnaissance et la vengeance, sont d'une telle nécessité que sans elles, on ne conserve pas l'honnêteté des mœurs. Les autres, la libéralité, l'affabilité, contribuent à une plus grande honnêteté. Donc toutes ces vertus dont on va maintenant parler, donc touchent, encore une fois, touchent à la vertu de justice, mais vont être traitées séparément dans le traité sur la vertu de religion. Donc la vertu de religion, traité important, donc question 81 à 100 dans la seconda secundae. On va traiter pas simplement des actes de la vertu de religion, donc on va parler de la dévotion, de la prière, de l'adoration, des différents actes extérieurs qui manifestent cette adoration due à Dieu. On va parler également des vices opposés à la vertu de religion, comme la superstition, l'idolâtrie, la divination, les différentes observances. On va parler aussi de l'irreligion envers Dieu ou envers les choses saintes. On va parler donc du parjure, du sacrilège, de la simonie. Vous voyez qu'il y a là, encore une fois, beaucoup de choses à voir. Dans la deuxième partie de ce traité sur la vertu de religion, on va parler d'autres vertus qui sont les vertus potentielles de la vertu de justice, de la vertu de religion, comme la piété filiale, la reconnaissance, mais aussi la vengeance, hein. L'amitié, l'affabilité, la libéralité, l'épiquité ou l'équité, le don de pitié, de piété, pardon, qui correspond à la vertu de justice, et les différents préceptes de la vertu de justice. Donc, nous commencerons, si Dieu veut, encore une fois, ce cours la prochaine fois. Donc, je m'excuse si dans certaines parties du cours sur la vertu de justice, j'étais un peu sec dans mes commentaires, mais c'est que c'est un sujet qui est en soi un peu sec. Si vous lisez par exemple certaines questions sur l'usure de saint Thomas d'Aquin, bon, c'est très sec. Quelques pages plus loin, vous lisez l'introduction au traité de la vertu de religion, ça dégouline au contraire de charité, de douceur et de miel littéralement, parce que le sujet est beaucoup plus facile à traiter. Donc nous commencerons, si Dieu veut cela, la prochaine fois, donc avec la vertu de religion, c'est-à-dire les devoir à rendre à Dieu lui-même. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. J'ai une petite note à rajouter pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur la prédication des exercices de Saint-Dizinien. S'ils souhaiteraient suivre des retraites avec moi. Actuellement, je suis bloqué par l'exiguïté de l'endroit où je suis. J'ai mis 4 chambres. Donc, je dois déménager en principe au 1er septembre, juste à côté, toujours dans le Tarn, près d'Albi, là où je suis, à Padiès. Et je vais essayer à ce moment-là de trouver des gîtes ou un gîte à louer avec une dizaine de chambres pour que je puisse prêcher plus régulièrement les exercices Saint-Ignace. Donc, je vous tiendrai au courant. Soyez un petit peu patient et je vous tiendrai au courant en envoyant une note à toutes les personnes qui m'écoutent sur le site, soit en l'annonçant directement avant un cours ou à la fin d'un cours, soit en vous envoyant directement une notification pour les personnes dont j'ai les adresses et les coordonnées. Voilà, merci, que bon Dieu vous bénisse.